Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Demain, c'est la fête de l'indépendance en Ukraine. Nous en serons aussi à 6 mois de guerre. Quel bilan tirer? Quel avenir pour ce conflit dont l'issue paraît lointaine mais dont les conséquences se font ressentir dans le monde entier? Les équilibres mondiaux sont-ils d'ores et déjà bouleversés? Et la France et l'Europe dans tout ça? Nous en parlons ce soir avec un géopolitologue, Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors commençons par l'actualité. Demain, c'est la fête de l'indépendance donc. Et il y a cette crainte côté ukrainien d'un déluge de feu russe, côté américain aussi. Washington appelle depuis hier ses ressortissants à quitter l'Ukraine. Alors est-ce que c'est envisageable, une date symbolique? Est-ce que ça veut forcément dire une occasion de cogner fort côté russe?
Oui, bah, on peut dire que les Russes, hein, Vladimir Poutine à la tête de la Russie, bah, n'ont pas besoin de date symbolique, hein, pour taper fort. Ils l'ont déjà démontré. Alors, cela dit, bah, il est vrai qu'à certains moments, dotés d'une certaine valeur symbolique, hein, comme par exemple, hein, la présence, hein, du secrétaire général à Kiev, hein, il y a quelques mois, hein, les Russes n'avaient pas hésité à bombarder la ville de Kiev. Donc, oui, c'est tout à fait envisageable, hein, qu'il y ait une sorte de salve, d'intensification des bombardements sur Kiev et sur d'autres villes ukrainiennes à l'occasion de la fête nationale ukrainienne.
Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on se rappelle de la date du 9 mai, c'est en Russie la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, beaucoup d'observateurs, mais aussi et surtout les Américains, craignaient une offensive russe et il n'en a rien été, hein.
Bah, l'offensive a continué. L'offensive,
non, mais le 9 mai, en soi, il ne s'est rien passé de particulier.
T'as rien passé de particulier. C'est ce à quoi on s'attendait. Bah, surtout le 9 mai, c'est pas tellement une grande offensive, hein, mais c'était une déclaration de mobilisation générale qui serait précédée par une déclaration officielle de guerre, hein, de la part de la Russie. Bah, donc c'est surtout ça, bah, qui a déjoué un certain nombre de pronostics. Hein, mais sinon, les opérations, elles ont commencé il y a 6 mois. Il y a des variations d'intensité en fonction du rapport des forces, en fonction de la disponibilité des forces d'un côté ou de l'autre.
Alors, dans l'actualité, il y a aussi cet après-midi ces promesses faites par Emmanuel Macron au président ukrainien. C'était dans un message vidéo au sommet de la plateforme Crimée. Promesse d'un soutien dans la durée au combat de l'Ukraine, celle également de ne jamais faiblir, de ne jamais faire de compromis à la Russie. Le président français réaffirme une fois encore son soutien. Il ne veut plus se mettre Volodymyr Zelensky à dos. On se rappelle qu'à une époque, il avait dit qu'il ne fallait pas humilier Vladimir Poutine et il y avait eu un coup de froid, hein, entre les deux chefs d'État.
Oui, mais je pense pas qu'il s'agisse de ménager le chef d'État de l'Ukraine d'une manière ou d'une autre. Je pense que la direction politique française a révisé sa vision de la Russie. Le fait est que cette vision assez complaisante, à mon sens, elle était invalidée par les faits. Il y a eu quand même une certaine difficulté, une certaine lenteur à réajuster cette vision des choses. En fait, j'ai toujours affecté de ce qu'on pourrait appeler en psychologie un phénomène de dissonance cognitive, hein, un décalage, hein, entre nos représentations et la réalité. Hein, mais aujourd'hui, les réajustements sont faits. Ben, on a bel et bien compris, hein, que la Russie a mené une guerre à but absolu, ben, contre l'Ukraine, que ce n'était pas simplement des incidents de frontières, une simple rectification, hein, sur les confins orientaux de l'Ukraine, ben, que l'objectif ultime de la Russie était d'effacer purement et simplement l'Ukraine, que c'était une rupture à des équilibres stratégiques en Europe et dans le monde, hein, que nous étions entrés dans une nouvelle ère stratégique et même géopolitique, hein, et qu'il allait falloir, il faut désormais faire front face à une menace russe, hein, qui est un élément structurel là, du paysage géopolitique européen, eurasiatique et plus largement mondial. Je pense que c'est surtout ça qui est en jeu.
Alors demain, ça fera 6 mois que la Russie a lancé sa dite opération militaire spéciale. Peut-on dire que Moscou s'est enlisée en Ukraine depuis? Le 24 février dernier, on semblait assister à une invasion totale. Les semaines ont passé et l'offensive se concentre désormais sur l'est de l'Ukraine, sur la région tant convoitée du Donbass.
Alors l'opération spéciale a échoué, oui. Alors, cette appellation, ce n'était pas simplement une forme de déguisement. Ben, ça renvoyait à la manière de voir les choses du côté du Kremlin. Il y avait l'idée selon laquelle la direction politico-militaire de l'Ukraine pouvait éliminer très rapidement, en 2 ou 3 jours, que l'État ukrainien allait s'effondrer sur lui-même, comme un château de cartes, et que finalement, le problème essentiel, là, ça serait occuper le territoire ukrainien. Donc, le fait est que ça a échoué, que cette opération spéciale ou cette guerre de mouvement s'est transformée en une guerre d'usure. Alors, dans un second temps, les objectifs dans la guerre, en tout cas les objectifs militaires, ont été redéployés en direction du Donbass. Mais il ne faut pas oublier le sud de l'Ukraine. Il y a quand même pas mal de choses dans l'actualité, entre la centrale nucléaire de Zaporijjia, l'extension des opérations à la Crimée, qui devrait nous inciter à regarder plus le sud de l'Ukraine. C'est dans le sud de l'Ukraine qu'il y a un certain nombre de gains relativement importants qui ont quand même été opérés par la Russie. Donc le Donbass, mais également le sud de l'Ukraine. Si vous voulez, ce que les Russes, en tout cas ce que la direction politico-militaire russe cherche à mener maintenant, c'est une tactique du salami. Finalement, on ne pouvait pas absorber en une seule fois l'Ukraine. Le fait est que les plans russes ont été déjoués. Donc l'idée, c'est d'essayer de prendre possession de l'Ukraine par tranche. Voilà ce qu'on appelle la tactique du salami.
Alors, vous évoquez la centrale nucléaire de Zaporijjia. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, annonce ce soir, ou du moins évoque l'idée d'une possible visite avec son homologue française, Catherine Colonna, d'inspecteur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. À quoi jouent les Russes ?
Alors d'une part, c'est une manière d'agiter la menace nucléaire en essayant d'impressionner les gouvernements, les opinions publiques des pays occidentaux. Et puis d'autre part, il me semble que tout cela sert également de couverture à une sorte de réingénierie locale, régionale. Ces incidents, ces tensions autour de la centrale nucléaire, finalement, ils déguiseraient la volonté russe de débrancher la centrale nucléaire de sa Zaporijjia, du système électrique énergétique ukrainien, et puis de connecter cette centrale nucléaire au système énergétique russe. L'idée essentielle du côté russe, c'est de rendre viable leur occupation des territoires du sud de l'Ukraine, y compris la Crimée, comme je le rappelais précédemment, et ça suppose, entre autres, un approvisionnement énergétique durable.
Jean-Sylvestre Montgrenier, vous nous affirmiez il y a quelques instants que les plans initiaux russes avaient échoué. Ça, c'est en grande partie dû au soutien occidental à Kiev. Les États-Unis veulent envoyer des armes toujours plus sophistiquées. La Commission européenne, on l'a appris il y a quelques jours, envisage de lancer des entraînements avec les troupes ukrainiennes dans les pays voisins de l'Ukraine. On en est à plus de 74 milliards d'euros d'aides versées en grande majorité par les Américains. C'est à la fois de l'aide humanitaire et militaire. C'est décisif, ça aussi, cette aide.
C'est décisif. Enfin, ce qui a quand même d'abord et avant tout été décisif, c'est la résistance militaire de l'armée ukrainienne sur le terrain. Et c'est ce qui a achevé de convaincre un certain nombre de dirigeants occidentaux qu'il fallait soutenir cette résistance militaire. Ce ne serait pas quelque chose de vain. En fait, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est produit en Afghanistan un an plus tôt. Un an plus tôt, on était persuadé en Afghanistan que l'armée nationale afghane qui avait été mise sur pied États-Unis, l'OTAN allait tenir bon et allait assurer une certaine viabilité à cet Afghanistan, donc post-OTAN en quelque sorte. Et puis, bon, là, ça s'est effondré très rapidement. Inversement, dans les pays occidentaux, beaucoup étaient persuadés que l'Ukraine ne serait pas capable de faire face à une offensive russe. Et cette armée ukrainienne a démontré sa capacité. Alors, c'est vrai qu'elle a été déjà aidée depuis un certain nombre d'années, depuis 2014. Mais bon, le fait est qu'elle a subi l'épreuve des armes et ça a fini de convaincre les dirigeants occidentaux du fait qu'il fallait, ça n'était pas un combat vain, qu'il fallait soutenir cette armée ukrainienne et au-delà l'État ukrainien dans sa résistance contre la guerre de conquête menée par la Russie.
Alors, ce soutien humanitaire et militaire occidental s'est accompagné de nombreuses salves, de nombreux trains de sanctions contre Moscou. La Russie n'a pas l'air de trop en souffrir. Si l'économie tangue, elle a réussi à vendre son pétrole, son gaz à d'autres pays, je pense à la Chine notamment. Et puis, ces sanctions ont également un coût pour les Occidentaux, en particulier les Européens. Le président français appelait pas plus tard que vendredi dernier les Français à accepter de payer le prix de la liberté. Il faisait référence à la sobriété énergétique à laquelle nous allons être contraints ces prochaines semaines. Et puis l'Allemagne qui se retrouve également en grande difficulté avec ce chantage sur les turbines des pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 est contrainte de relancer le charbon et de reporter sa sortie du nucléaire. Les Occidentaux ne souffrent-ils pas plus des sanctions qu'ils veulent infliger à Moscou ?
Non, ce n'est pas le cas. Mais il suffit de regarder d'ailleurs les taux de croissance. Le fait n'est pas que les taux de croissance dans les pays occidentaux sont malmenés, non pas par les sanctions, mais par la situation de guerre en général. Là, c'est une rupture à des équilibres stratégiques en Europe, en Eurasie, dans le monde. Il est évident que ça a des tas de conséquences sur l'économie, et donc y compris les taux de croissance de nos économies. Mais le fait est que la Russie, elle, est entrée en récession. Ce n'est pas parce que Poutine passe son temps à dire « même pas mal » que c'est vrai. Il suffit de regarder un certain nombre d'études économiques qui ont été publiées ces dernières semaines, ces derniers mois, et actualisées sur une année. La Russie enregistre déjà une récession de 4%. Il n'y a aucun pays occidental qui connaît une telle récession. Et alors, par ailleurs, à ces sanctions, ce sont des mesures qui ont été prises, qui visent à entamer le potentiel de puissance de la Russie dans la durée. Il ne s'agit pas d'en attendre un effet immédiat, même si c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de déclarations dans ce sens. L'idée, c'est que la Russie est bel et bien une menace inscrite dans la durée, que ça fait partie de notre paysage stratégique, militaire, plus largement géopolitique, et qu'il faut porter atteinte à ce potentiel de puissance. Et les sanctions qui ont été prises en 2014, elles ont eu des effets. Elles ont notamment ralenti la modernisation du système militaire russe, et c'est ce qui explique, entre autres facteurs, un certain nombre de ratés de cette machine militaire sur le théâtre d'opérations ukrainien. Donc c'est comme à l'époque de la guerre froide. À l'époque de la guerre froide, à la fin des années 40, il y avait une instance qui avait été mise en place, le COCOM, qui visait à empêcher tout ce qui était transfert de technologie, transfert de ressources financières au bénéfice de l'URSS, parce qu'on était bel et bien engagé dans une guerre froide. Et il ne s'agissait pas de renforcer ce qui menaçait de vous détruire. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, bien entendu, ça a un coût, mais la question, c'est de savoir si les intérêts de sécurité sont plus importants, moins importants, que les intérêts économiques.
Nous sommes avec le géopolitologue Jean-Sylvestre Montgrenier. Dernière question. 6 mois après le début de la guerre en Ukraine, des acteurs ont émergé, ont gagné des points sur la scène diplomatique. La Chine était déjà un poids lourd avant, mais je pense surtout à la Turquie, membre de l'OTAN, reçue à la fois par Vladimir Poutine à Sotchi et qui signe des accords de coopération économique, et encore plus récemment par Volodymyr Zelensky à Kiev.
Alors, d'abord, sur la Chine poids lourd, oui, bien sûr, mais il faut bien voir aussi que le système économique chinois est fragilisé depuis maintenant même plusieurs années avec les confinements sanitaires, le virus de Wuhan, etc. Il ne faut pas imaginer que la Chine connaît un état de santé, de bonne santé particulièrement insolent. Quant à la Turquie, c'est vrai qu'elle cherche à jouer sur deux tableaux pour dire les choses comme elles sont, mais il n'en reste pas moins qu'à l'intérieur de l'OTAN, les disciplines minimales sont respectées. Pour l'instant, elle n'a pas utilisé son droit de veto pour empêcher l'élargissement de l'OTAN à la Suède et à la Finlande, ce qui vient changer beaucoup de choses dans le rapport des forces dans la région baltique et plus largement dans le Grand Nord. Le fait est qu'il y a un soutien militaire apporté à la Turquie, apporté à l'Ukraine, par la Turquie. Et enfin, la Turquie connaît une situation économique particulièrement difficile, avec une inflation galopante.
80% d'inflation en Turquie, oui.
Voilà, 80% d'inflation, donc il ne faut pas imaginer que c'est une sorte d'acteur surpuissant qui parviendrait à surfer dans la situation actuelle. Là, Erdogan cherche surtout à maintenir des équilibres particulièrement compromis, et ce, à plusieurs mois, à quelques mois maintenant, d'une élection présidentielle, d'élection législative en 2023, pas 2023, pas coïncident également avec le centenaire de la République turque. Donc il cherche surtout à se maintenir à flot, me semble-t-il, Erdogan.
Et nous en avions déjà parlé avec le géopolitologue Alexandre Delval dans Europe Soir. Merci beaucoup Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Merci de nous avoir éclairer sur ce donc bilan de 6 mois de conflit en Ukraine. Restez avec nous dans quelques instants, le débat d'Europe Soir. Nous serons avec Charles Zitzenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin, et Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour et porte-parole de Reconquête. À tout de suite.